Inouï.
Inouï.
Une émission, de création et documentaire sonore.
Par les étudiants du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.
On se retrouve, on se donne à nouveau rendez-vous, ou peut-être qu'on se rencontre pour la première fois. Mais surtout, on est ensemble pendant une heure d'émission. Ouvrons grand les oreilles et bienvenue à toi dans l'émission Inouï. Trois réalisatrices du Créadoc ont choisi de vous faire tendre l'oreille dans trois créations sonores. Il y a tout d'abord Claire Messager, avec les deux oreilles percées, deux trous de chaque côté, qui fera entendre ce qu'est la surdité. Puis il y a Fanny Dujardin, qui a une boucle d'oreille à gauche et une boucle d'oreille à droite, et qui fera découvrir sa perception d'un lieu sonore. Il y a enfin Charlène Biju, percée au cartilage de son oreille gauche, qui fera un portrait de plusieurs grands-parents. Petite mise en garde, ces trois réalisatrices ont décidé de vous rendre fétichistes des oreilles.
Inouï.
Inouï.
Partie d'un documentaire sonore sur la norme entendante et sur la place du son dans notre environnement, Claire Messager a produit une pièce sonore. Pièce qui a été interprétée par des élèves comédiens du Théâtre National de Bretagne. Ce ne sont ni des comédiens qui rejouent un documentaire, ni un documentaire remanié pour des comédiens, mais un croisement de tout cela. Trois personnes sourdes parlent de leur rapport au son, de leur place de sourd dans un monde sonore. Ces trois personnes sourdes sont dans L'oreille invisible, une pièce sonore de Claire Messager.
Le seul son qui me retienne vraiment à entendre, c'est la musique. Mais je connais d'autres sourds qui ont tout le temps besoin d'entendre les bruits quotidiens, parce qu'ils ont pris l'habitude. Il y en a d'autres qui, au bout de plusieurs années, détestent ça, et ils abandonnent complètement leur appareil. Mais à la base, ceux qui n'ont jamais travaillé à connaître le bruit, c'est clair que ce n'est pas un besoin d'avoir le son, tu vois? Ce que nous avons tous en commun, c'est la langue des signes. Pour le reste, on a tous une histoire différente.
Thank you.
Donc, tu m'aides. Mon signe, c'est la main qui est sur mon front, comme une frange. Ça date de quand j'étais petite, j'avais une frange. Je suis danseuse en danse contemporaine et comédienne en langue des signes. Je suis sourde profonde de naissance. J'ai grandi en parlant et en signant. J'ai un appareil et un implant.
Je m'appelle Bastien. Donc, mon signe, c'est la main à plat, avec le pouce à l'intérieur de la main refermée, qu'on glisse deux fois sur la joue. Donc, la main comme ça, ça donne la lettre B au départ. Je suis professeur des écoles dans une école bilingue avec des enfants sourds et entendants. Je suis sourd profond. J'ai été appareillé et moi-même, je signais et j'oralisais.
Damien, mon signe c'est crâne qui brille. Je suis comédien et informaticien de formation. J'ai une surdité sévère, c'est génétique. J'ai été appareillé jusqu'à ma majorité et j'ai une éducation oraliste. Et puis j'ai découvert la langue des signes à 26 ans.
C'est vrai que ça m'intéresse cette question-là du son. Par exemple, mon frère, il a une voiture électrique. Moi, je me disais, c'est super, c'est doux, c'est confortable. Mais du coup, pour les entendants, c'est gênant, parce qu'il n'y a pas de bruit. Donc en fait, on rajoute un petit peu de bruit exprès pour donner une vigilance et que les personnes puissent se dire, il y a une voiture qui est là. Moi, j'ai jamais entendu de voiture, ça me pose pas de soucis. C'est vrai que c'est bizarre, ça. Aussi, j'étais traumatisé qu'il y ait de la musique dans les supermarchés, en fait. Dès qu'on va dans ces endroits-là, il y a de la musique. Bah, j'avais pas cette notion-là du tout. Les entendants ont besoin de son. Ça les rassure, en fait. Ça, vraiment, je trouvais ça incroyable. Les sourds sont bruyants.
Par exemple, je ne m'entendais pas rire.
Parce qu'il n'y a pas cette conscience des bruits, donc il n'y a pas cette gêne.
Donc pour le rire, c'était pas facile de me contrôler. Ou même pour parler correctement, puisqu'il y a des sons que je n'entendais pas.
Je me rappelle d'une émission, et j'étais bouche bée quand j'ai vu ça. Il y a un sourd qui expliquait quand il allait aux toilettes, sa maman lui disait « S'il te plaît, fais attention, ne fais pas pipi directement dans l'eau, mais fais plutôt pipi sur la cloison. » Ah bon ? Donc si je fais pipi dans l'eau, en fait, ça fait du bruit ? J'avais pas du tout pensé à ça. Je croyais que c'était le contraire, en fait.
Fréquence 3000 Hz.
Un monde flou.
Comprendre. Quand j'avais mes appareils, je comprenais peut-être 30% des discussions. Après, c'était de la devinette. C'était plus des sons pour moi, pas de la compréhension. Il y a des syllabes que je n'entendais pas. J'entendais pas toutes les lettres, comme le I, le E, ni les sons du A, O. Les dictées, c'était toujours zéro. C'était pas à cause de l'orthographe, mais il me manquait des mots. Jusqu'au jour où un prof prenne le temps d'être en face de moi et d'articuler, et j'ai eu la meilleure note. En troisième. J'ai toujours cru que j'étais nul.
En vrai, je disais « oui, j'entends bien », mais en fait, en soi, j'entendais du bruit. Quand on m'appelait par mon prénom, j'hésitais en fait. J'étais pas sûr que c'était mon prénom, ce que j'entendais. Je sais pas ce que ça représente les mots pour les entendants. Un jour, ma mère avait demandé à un orthophoniste un audiogramme. Bon, j'entendais vaguement quelques sons. Et elle m'a demandé « est-ce que tu veux essayer avec les images ?» Elle m'a proposé d'entendre les bruits et de retrouver les images qui correspondaient. Donc, il y avait une image avec un chien, avec une goutte qui tombait, et puis une image, je crois, avec un orage, une image avec du vent, donc je pense qu'il y avait 8-10 images. Mais si je voyais juste les images, je ne savais pas quel était leur bruit, mais par contre, en entendant les bruits, j'ai pu les associer aux images. Chaque image avec chaque bruit. À ce moment-là, elle m'a dit « Bah, ça veut dire que tu peux entendre les bruits ?» Je lui ai dit « Non, j'ai jamais entendu. » C'est plus un instinct, en fait. J'ai grandi en lisant beaucoup de BD, Picsou, Astérix Obélix. C'était très visuel, et puis il y avait des bulles, comme avec les « boum, bam », avec l'influence de ces onomatopées et ces sons-là que je voyais, c'était plus par instinct et au hasard, finalement, que je suis tombé juste. Par exemple, le bruit de la goutte d'eau, j'imaginais plutôt le rythme, en fait, de la goutte d'eau, et je me suis rendu compte que ça correspondait. Mais dans la vie de tous les jours, j'entendais jamais ça.
Travailler à connaître le bruit.
Moi, j'ai jamais entendu de voiture.
Par exemple, je ne m'entendais pas rire.
Ce n'est pas un besoin d'avoir le son.
Ça les rassure, en fait.
C'est comme ça que j'ai pu comprendre la définition de la musique.
En fait, ça fait du bruit.
Je ne parle plus du tout.
Comme les entendants qui entendent.
Je sais pas ce que ça représente, les mots.
J'écoute avec mes yeux.
La définition de la musique.
Pour les entendants.
J'ai une surdité sévère.
Connaître le bruit.
Chaque image avec chaque bruit.
Il me manquait des mots.
Je suis sourde profonde.
Je suis sourde profonde.
Je suis sourde.
C'était toujours zéro.
Moi, j'ai jamais entendu de voiture.
Connaître le bruit.
Ça les rassure, en fait.
Par exemple, je ne m'entendais pas.
Travailler à connaître le bruit.
En fait, ça fait du bruit.
Ce n'est pas un besoin d'avoir le son.
Je sais pas ce que ça représente.
Tu vois ?
Comprendre,
c'est comme ça que je peux comprendre.
Avec
avec chaque...
La définition de la musique, comme les entendants qui entendent,
je parle plus du tout. J'étais
la définition de la
ça
musique,
ça les rassure en fait.
Connaître le
bruit, ça fait du bruit,
j'écoute avec mes yeux. Je suis sourd,
chaque image, avec chaque bruit.
Tu vois,
je suis sourd.
Ce n'est pas un besoin de compassion.
Avec les entendants, j'adore parler, mais ça ne dure pas longtemps. C'est un effort d'écouter. Et quand je parle, je contrôle mes erreurs de français, car je connais la syntaxe en langue des signes, mais pas vraiment en français.
Je l'ai découvert à 26 ans, par hasard. Mon orthophoniste était contre, donc je n'avais pas eu l'occasion de découvrir la langue des signes, encore moins d'en entendre parler. Je me sentais plus à l'aise avec cette langue sans vraiment la connaître.
Par exemple, si je vais dans une soirée avec les entendants, je peux être en forme. Puis au bout de quelques heures, j'ai un coup de barre. Car ce n'est pas naturel d'entendre et de parler. Alors que si je passe une soirée avec les sourds, je peux rester jusqu'à 8 heures du matin.
C'est plus difficile pour qu'un entendant me comprenne. Mais c'est plus facile pour moi de m'exprimer. Je ne parle plus du tout. Je n'oralise plus, et on oublie vite. Je suis dans les deux mondes, mais uniquement en langue des signes.
Voiture. Goutte d'eau. Sonnette. Chien. Chien. Goutte d'eau. Orage, grenouille, chien, grenouille, voiture, goutte d'eau, mouton, orage, grenouille.
Bébé, les entendants, ils savent ce que c'est le bruit de la voiture, de l'oiseau, de la d'eau. Tu vois? Pour les sourds dans cerveau, le son c'est un et l'on cherche en permanence à sens des sons. C'est comme une pour les sourds, car on avec yeux, mains. Moi, exemple, j'aime la musique. C'est parce que père est musicien et toutes sortes de musique. C'est comme ça que j'ai définition de la musique pendant des années.
Fréquence 300 Hz.
D'autres sens que l'ouïe.
Pour un enfant sourd, quand il ne comprend pas le son, ou qu'il n'arrive pas à s'exprimer oralement, c'est son corps qui s'exprime. Les aveugles, eux, ils sont sensibles au son. Ils entendent beaucoup plus que les entendants. Donc les sourds, ce sont les yeux qui voient ce qui se passe. C'est devenu naturel, comme les entendants qui entendent. J'essaye de donner des exemples. Dans la rue, si je vois tout le monde qui regarde d'un coup d'un côté, à cause d'un bruit, alors je fais comme eux. Ou alors, s'ils dansent en danse bretonne, visuellement on voit le rythme, donc on peut les suivre. Si la porte claque, je la sens. Une personne qui passe juste à côté, on est plus sensible par le corps aussi. D'ailleurs, dans mes ateliers, je travaille sur ça, car je sais que les entendants peuvent travailler plus là-dessus, car ils se sentent protégés par le son, donc ils oublient ce qu'ils voient. Pour les sourds aussi, pour ceux qui ne connaissent pas la danse, car en langue des signes, c'est seulement la partie du haut du corps. Donc c'est aussi intéressant de penser le bas du corps. Oui, car c'est une fréquence basse. Et sentir l'air aussi.
C'est certain que je me reconnais plus dans un monde d'images que de sons. J'écoute avec mes yeux. Prends un ballon de baudruche ou un verre, tu verras, c'est facile de capter les basses, le rythme. Si le sol c'est du bois, on ressent encore plus les pas de quelqu'un, dès qu'il y a un mouvement.
En danse africaine, quand les musiciens jouent sur le plancher, il y a des vibrations basses qui me permettent de comprendre le rythme. Si je vais à un concert, je peux sentir les fréquences basses. Et d'ailleurs, quand on cherche les sourds, souvent on sait où les trouver. Devant les énormes enceintes, près de la scène.
Dans ma nouvelle voiture, les baffles sont vraiment super. Donc je mets un CD de techno et il y a plein de vibrations. Après, de quoi ça parle, j'en sais rien. Mais les vibrations sont vraiment fortes. Ça me plaît beaucoup.
J'ai besoin de réfléchir. J'imagine que pour un entendant qui a l'habitude de vivre avec le bruit de la ville, si tout à coup il part à la montagne, ce sera un autre bruit. Le silence n'est jamais là, j'imagine.
Le silence est d'or. Quand je ferme les yeux, je suis facilement relaxé.
Le calme. Dès qu'il y a du bruit, je m'y sens pas à l'aise. Là, j'ai des acouphènes avec la fatigue, souvent en fin de journée. C'est sûr qu'avant, avec les appareils, j'en avais pas. Il y a des sourds profonds avec qui j'ai discuté qui ont des acouphènes.
Le silence, pour moi, un paysage où rien ne bouge, aucun vent. Pour moi, dans la mer, même si on voit des poissons, c'est quand même une sensation de silence. Que ça dure longtemps dans l'eau. Je trouve intéressant qu'on pense différemment le thème de silence. Moi, j'imagine qu'il y a le bruit des pas, de la respiration qui suit les mouvements de vêtements. Je souhaite un jour créer un spectacle. J'y pense depuis un moment. Il y aurait les musiciens et les danseurs dans un cube transparent, qui permet au public de ne rien entendre, pour qu'ils puissent imaginer, voir la musique visuellement. Tu vois ? Je veux qu'il n'y ait aucun son. Que le son passe par les yeux.
L'oreille invisible. Une pièce sonore écrite par Claire Messager, réalisée par Léna Dangréau et Claire Messager, avec Alexandre Albert, Romain Scheiner, Léna Dangréau et Léa Schweitzer. À la prise de son, Camille Alperin, Pierre Cassel et William Gloria. D'après les témoignages de Tumette Léon, Bastien Dubois et Damien Mignot. Un grand merci à Guy Senot, ainsi qu'à Sylvie, Linda, Karine et Floriane. Une coproduction de l'École du Théâtre National de Bretagne et du Master Créadoc. Angoulême, le 15 juin 2017.
C'était L'Oreille Invisible, une pièce sonore réalisée par Claire Messager.
Inouï.
Les oreilles de Fanny Dujardin se sont posées dans les plus petits espaces et recoins d'un lieu. Précisément, dans une carrière de pierre qui offre une réverbe naturelle impressionnante. Fanny Dujardin et son ami Erwan Vinès, apprenti comédien à l'ENSAT, jouent avec l'acoustique du lieu. Tentative d'exploration d'un lieu sonore est tel un jeu sonore où les sons, voix et musique s'imbriquent comme un puzzle.
De l'absence de choses plus modernes. Seuls les vandales du siècle dernier ont su profaner cet antre.
Les Allemands ne sont pas très loin d'ici. Alors on va rester planqué. Jean Moulin arrive dans pas très longtemps.
On n'entend plus de tous les oiseaux.
Erwan ?
Ouais.
Ça va ? Tu peux me parler ? Va loin, attends. Elle s'écarte dans l'espace.
Il fait froid ici. Il se fait poussière. Je suis né ici il y a presque 30 ans.
Je suis né ici il y a presque 30 ans.
Je sais pas si ça marche trop.
Merde à celui qui lira.
Je me suis fait berner.
Et ils se perdirent. J'ai aucune idée d'où nous sommes passés. Vous croyez que c'est toi qui avais le plan ? 1987. Malgré les peines et ma souffrance que je fais pour que mon âme s'enflamme des souvenirs, se doute de notre regard. Est-ce qu'on est au bout du...
Bien sûr, il y a un autre passage, parce que c'est celui-là.
Gaston a encore écrit des choses ici. L'Arde, le 18 décembre 1926. Il fait froid ici.
Gaston est un adolescent bipolaire qui a vécu dans les années 20 ici. Ça marche ? Nous allons continuer la visite.
Gaston n'est jamais sorti d'ici. Il n'en a jamais retrouvé son corps. Peut-être qu'il est encore en vie.
Bonjour.
Très drôle.
Qui ose troubler le sommeil de Gaston ?
J'ai vécu dans des villes sauvages. Nu, j'ai vécu nu, dans des vignes sauvages, reflets de vin d'orage et de corps sage ému. Nu, j'avance nu, dépouillé de mon âme. Je voulais pas être un homme.
Tu peux lancer une pierre sur le tas de pieds ?
Bien sûr.
C'était Tentative d'exploration d'un lieu sonore de Fanny Dujardin.
Inouï,
une émission,
de création
et documentaire sonore
par les étudiants du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.
Les oreilles de Charlène Bijoux ne se souviennent plus de ses grands-parents. Pour cela, elle est partie entendre les oreilles des autres, celles des petits-enfants qui parlent de leurs grands-parents. Elle a interrogé de petits-enfants, de tout âge, sur leurs papis, mamie, mémé et pépé. À travers eux, elle dresse un portrait indirect de leurs grands-parents et des relations qu'ils entretiennent. À travers eux, elle élabore sa propre vision, son propre fantasme de ce que représente pour elle la figure du grand-parent. À travers eux est un documentaire sonore de Charlène Bijoux.
Dans la famille, on les appelle Mémé Jeanne et Mémé Raymond.
Je ne l'ai jamais appelé Jacques, en fait. Ça a toujours été Papy.
Mémé Rosa et Pépé Pierrot.
Papy Claude, Mamie Lu.
Mamie, Papy.
Papy et Mamie, mais avec un Y.
C'est Mamie et Papy. Je n'ai pas vraiment de surnom.
Mémé tout court et Mémé Olga.
Je les ai pas connus, donc je les appelais pas.
À travers eux, de Charlène Bijoux.
Oui, allô mamie, c'est Pierre.
Ah, moi j'ai noué ce lien avec ma grand-mère et
je suis plus en admiration en fait devant eux, parce que c'est des gens, enfin ils ont eu 7 enfants et du coup ils ont une vingtaine de petits enfants et forcément ils peuvent pas être très proches de tout le monde. Du coup j'ai en fait un peu une image idyllique, mais
c'est vrai que je suis pas hyper présent comme petit-fils parce que j'habite pas à côté, quoi. Mais donc j'aimerais bien peut-être passer plus de temps avec eux, mais je sais que les moments que je passe avec eux, c'est en général des bons moments. Donc
ça m'est arrivé après 2-3 fois dans mon enfance de pleurer quand on évoquait mes grands-parents. Et parce que j'ai éprouvé de la jalousie vis-à-vis de ma sœur qui racontait plein de souvenirs, qui se souvenait plein de choses, d'avoir partagé des moments avec eux, et que moi j'avais pas ces choses-là. Donc
mon grand-père, à chaque fois que je vais le voir, il me raconte des histoires de quand il était plus jeune. Enfin, il adore ressasser sans arrêt ces histoires et tout ça. Enfin, il est généreux, quoi, tu vois.
Il parle beaucoup, donc il a un peu ce côté où il ressasse beaucoup, quoi. Et il partage ça. Donc j'ai beaucoup de souvenirs d'anecdotes qu'il me raconte et qu'il me raconte 10 fois, 20 fois, qu'il radote pas mal. Et quand j'étais petit, c'était un peu l'angoisse de l'avoir au téléphone parce que je savais qu'il allait me parler pendant 3 plombes.
Du coup, j'aurais bien voulu partager plus de moments intimes avec eux, quoi. Alors que c'est resté plutôt des gens de ma famille, mais que j'allais voir. Des fois, j'ai l'impression que c'est parce qu'il faut les voir, parce que c'est les grands-parents qu'il faut aller voir les grands-parents, quoi.
Après, ma grand-mère, par contre, on peut discuter encore aujourd'hui pendant des heures de tout et de rien, quoi. Enfin, le moindre truc que je vais lui dire, ça va lui rappeler une histoire ou une anecdote sur un truc.
Par rapport à mes parents, où les choses se disent pas beaucoup, en fait, dans ma famille, c'est un peu... Voilà, on parle pas trop, quoi, des choses. Bah, justement, c'était quelqu'un qui était hyper cash. Et moi, j'adore... Enfin, tu vois, moi, je préfère avoir ce rapport avec les gens vraiment cash et direct. Et donc, elle me disait les choses et ça faisait du bien. C'était quelqu'un qui avait un regard aussi extérieur, mais qui hésitait pas à dire les choses et tout. Donc, c'était... Ouais, je trouvais ça vraiment cool, quoi. Tu vois, cette relation particulière...
Ben, c'est elles qui m'ont construit comme je suis, quoi, avec mes qualités et mes défauts. Il faut dire qu'il y avait de l'amour et de la gentillesse hein, dans mes grands-mères. Donc forcément, je n'ai pas été maltraité ou quoi que ce soit. Voilà. Donc il y avait ça.
Je pense que ça a forgé certains choix, par exemple, d'orientation. J'ai fait des études d'histoire et je pense qu'il y avait ce côté-là de... Les grands-parents, c'est un peu les personnes... qui ont vécu une autre époque et tu les vois disparaître peu à peu. C'est les derniers maillons d'une histoire qui est juste avant toi. Et du coup, je pense que peut-être que ça, le fait que je ne les ai pas connus, ça m'a poussée à m'intéresser à l'histoire en général. Et peut-être que ça a déterminé un peu certains choix de vie.
Ils habitaient dans une maison qui était en fait en haut d'une butte.
Et j'adorais cette maison qui était de construction des années 30, je pense.
Genre 20e, quoi, c'est pas un vieux truc.
Du coup, c'était vraiment la maison familiale.
Et qui était coincée entre un cimetière et derrière, c'était la fin de la butte. Et tu sais, c'est ce genre d'endroit où la ville commence à devenir en fait des champs ou de la forêt. Donc c'était un peu une sorte de butte sauvage.
Moi, j'y allais quand même pas mal en vacances quand mes parents m'envoyaient là-bas. Mais... c'était plutôt un espace de liberté assez dingue.
On faisait n'importe quoi avec mon frère, c'était assez drôle. Et
on était tout le temps fourrés dans la maison.
Rentrer par le garage. Il y avait une cuisine dans le garage. Parce qu'il fallait pas salir la belle cuisine de la maison.
Ma grand-mère, elle passe le plus clair de son temps dans sa cuisine. Si c'est pas pour faire la cuisine, c'est pour faire ses mots croisés, c'est pour lire, c'est pour écouter la radio. Elle aimait bien que je vienne l'aider à couper les légumes, à apprendre à faire ses recettes, quoi. Elle, moi, elle m'a un peu transmis le goût de la cuisine et tout ça. Enfin, elle a une armoire complète de recettes de cuisine, quoi. Et en plus, c'est plein de papiers en vrac, je sais pas comment elle s'y retrouve là-dedans, mais plein de coupures de journaux, de magazines. Enfin, c'est fou. Et à chaque fois qu'on va chez elle, elle a une nouvelle coupure sur la table et elle a décidé de faire un nouveau truc. Enfin, et c'est toujours réussi en plus. Je sais pas comment elle fait. Quand on est tous là, elle fait des dindes énormes, quoi, et des trucs qu'elle coupe en plusieurs morceaux, enfin, pour que ça rentre dans le four.
Elle va prévoir à 4 fois plus à bouffer. Faut manger, il faut grossir, tout ça, machin.
La spécialité, c'était la mangette. Le haricot blanc cassé, là, qui mijotait pendant des heures et des heures, voire des journées entières, sur la gazinière à bois qui était dans la mansarde. Et ça mijotait. Et on faisait griller après les tartines et on mettait un peu d'ail dessus et on étalait du beurre salé, bien sûr. Et on mettait les haricots dessus. Et ça, il y avait qu'elle qui savait les faire avec ce goût-là. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était magique. Cette marmite posée sur le feu en continuité. Et c'était comme une fontaine illimitée de mangettes, quoi. Et on avait l'impression qu'il en sortait tout le temps. On pouvait servir autant qu'on voulait, il y en avait encore. Quoi. C'était un truc magique pour les... Alors, bien sûr, quand on est gamin, après, on comprend que non, elle travaille énormément. Mais quand on est gamin, on voit cette marmite qui ne se désemplit jamais.
Le salon, personne n'y allait jamais, hein, c'était pour les invités.
Souvent le soir, on mangeait des glaces devant la télé ou des trucs comme ça, tu vois, vraiment le souvenir stupide, mais c'était drôle, quoi.
Je regardais Question pour un champion avec mon papy.
Elle avait une grande horloge rectangulaire, là, avec le balancier en dessous, là, qui faisait un bruit et qui sonnait tous les quarts d'heure, style l'église, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et ça me faisait très, très peur quand j'étais gamin. L'horloge sonnait une minute ou une minute avant ou une minute après la cloche de l'église, qui était un peu plus loin. Donc, il y avait une espèce de pour nous, un truc complètement insensé de toutes ces cloches qui se mettent à sonner. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde? C'est la guerre mondiale? Enfin...
Il y avait des photos de nous partout, comme toutes les grand-mères, c'est l'étalage. C'est des sortes de petits cadres comme ça, des années 70, ronds, un peu étranges, comme ça, où tu avais toutes les photos de quand on est gamin, ou quand, je sais pas, quand j'étais affreusement gros, et que, tu sais, enfin, tu vois, cette époque ingrate et tout ça, et tu retrouves toutes ces photos chaque fois que tu y vas, quoi.
Il y en a où il y a un petit peu plus de photos que d'autres, genre ma sœur, elle est toujours en train de me jalouser parce qu'il y a plus de photos que moi que d'elle, tu vois, par exemple.
Il y a une photo où je fais un peu la gueule et je regarde un peu genre en dessous, tu sais. Genre je suis pas content d'être pris en photo.
Et là celle-là, je sais pas pourquoi, elle l'a affichée. Et j'ai une vieille tête dessus et à chaque fois j'essaye de marchander pour échanger la photo contre une autre ou quoi. Mais non, elle y tient, elle la garde celle-là.
Ah oui, elle a fait imprimer des calendriers de ses petits-enfants et de sa famille et tout. Genre. Elle en a même fait imprimer sur des coussins des photos. Donc... Enfin bon, il traîne dans un coin, quoi.
Et au deuxième, c'est les chambres.
Ce qui est marrant, c'est qu'on dort toujours dans les mêmes, dans le même lit superposé quand on y va avec mon frère, là. C'est un vieux lit, genre. Mes pieds, maintenant, ils dépassent de l'autre côté, quoi. Une espèce de vieux lit en bois massif, quoi. Genre. Il y a une espèce de moquette bleue par terre, quoi. Une vieille moquette complètement défoncée, quoi. Mais le truc, il a pas bougé, quoi, depuis que j'ai genre moins de 10 ans, quoi. Ou quand je dormais en haut, j'avais l'impression que j'allais mourir si je tombais, quoi.
Et ma grand-mère, ben, elle était un peu folle et hystérique, elle criait beaucoup. Quand on allait dormir chez elle le matin, elle nous réveillait avec en passant l'aspirateur dans les chambres, ce qui nous faisait beaucoup rire après, mais sur le moment, on hurlait.
Et quand on va aux toilettes, Mémé Rosa, quand on sort, elle dit « Allez, les mains en l'air jusqu'au lavabo ». Et du coup, tous les petits-enfants, à chaque fois qu'ils vont aux toilettes, ils sortent des toilettes avec les mains en l'air jusqu'au lavabo pour aller se laver les mains. Alors parfois, t'esquives et c'est « Tu t'es lavé les mains ? Oui, oui !»
Et mon grand-père, c'est qu'il fumait dans les toilettes. Et que je détestais du coup aller aux toilettes. C'était des cigarillos qui puaient. Et les toilettes puaient le cigarillos.
Ça sentait le vieux chez eux. Ça sentait vraiment un mélange de poussière, d'humidité, de maison de campagne en fait. Mais c'est vrai qu'il y avait une odeur aussi particulière.
Des odeurs de cave ou des trucs comme ça. Du coup, je me rappelle qu'il y avait une cave aussi, en fait. On descendait, il faisait frais, et puis il y avait du gros carrelage noir et blanc, quoi, un peu comme un damier au sol, quoi. C'était super étrange. Parce que je me rappelle qu'il y avait une caisse de jeux en bas. On allait remonter, je sais plus ce qu'on allait bricoler. Je me rappelle qu'il y avait des scorpions de temps en temps aussi, là. Ouais, et du coup, on en avait trouvé quelques fois. Bah, parce qu'il faisait frais, en fait, l'été. Et du coup, ils se foutaient là. Et du coup, je me rappelle qu'on en avait ramassé dans des bocaux et tout. Délire de gosse, quoi.
Je me rappelle dans le jardin de mes grands-parents maternels, je sais pas si tu vois ce que c'est, les espèces de bacs en forme de coquille Saint-Jacques bleu. Et dedans, il y avait du sable du coup, et du coup c'était le bac à sable du jardin là-bas, c'était chouette ça.
Ils avaient vraiment le petit jardinet avec des petites fleurs dans les coins où il fallait rien, fallait rien abîmer, tu vois. Où on jouait avec mes cousins, il y avait un carré d'herbe au milieu et ça faisait le tour avec des pavés en fait. Et avec mes cousins, on s'amusait à prendre des petites voitures où tu avances avec tes pieds là sur le côté. Et moi je me mettais dessus et ils me tiraient tout du long. Enfin, on faisait des conneries dans le jardin et puis on cassait une fleur, on le cachait et tout. Mais...
On faisait du pétrole pour te dire. On mélangeait de l'eau avec de la terre, ça faisait du pétrole, voilà.
Et on faisait les cons avec l'arroseur automatique aussi.
Avec mon grand-père, on allait souvent se balader en forêt. Enfin, à chaque fois qu'on allait chez lui, c'était le rituel. Après manger, il fallait faire la balade. Et du coup, on passait par une route goudronnée. Puis après, on rejoignait un petit bois, toujours le même.
On allait à la campagne, on allait voir les animaux, on allait aussi se balader sur les plages et tout ça.
On sortait beaucoup, donc on allait un truc qu'ils appelaient le plan d'eau, c'était une sorte de petit lac tout petit.
À part une fois où on est allé se balader dans le centre et on est allé à la librairie et on a pas mal marché. Et en fait, c'est pas souvent qu'elle marche autant, quoi. Et du coup, ça m'a étonné parce que je lui ai dit « Ah, j'aimerais bien aller là. » Et je lui ai dit « Mais si tu veux, enfin, j'y vais tout seul, quoi. Enfin, c'est pas grave. » Et elle m'a dit « Non, je vais venir avec toi et tout. »
Bah, bien sûr, il me manque un peu. Après, j'ai l'impression que c'est dans l'ordre des choses, quoi.
En fait, quand mes grands-parents sont décédés, j'ai pas pleuré. J'ai pas été particulièrement triste. Enfin, c'était assez naturel pour moi. Et c'est horrible de dire ça, mais j'ai pas l'impression qu'il m'ait particulièrement manqué.
Oui, là, j'aimerais discuter avec eux, là, actuellement, quoi. Et je pense que, ouais, et puis ça manque pas aussi que pour moi, ça manque aussi pour mon fils.
Donc c'est de se croiser, que les générations se croisent et que très souvent, les grands-parents finalement meurent à un moment où nous, on peut commencer à comprendre. Ça, c'est un vrai regret.
Ma grand-mère maternelle, du coup, je lui ai posé très peu de questions. Je ne sais rien pratiquement de sa vie. Et je crois qu'on n'est pas assez dégourdis dans la vie, tous les uns comme les autres, ou presque, pour oser poser les questions au moment voulu.
Et je ne me sens pas de lui demander, tu peux me raconter ce genre de choses, quoi. Même lui poser la question de son enfance, j'ose même pas, en fait.
C'est quelque chose d'assez récent, au final, de m'intéresser à eux comme ça, quoi.
Ils ont vécu des choses que nous, on vivra pas, et heureusement, d'ailleurs. Enfin, je le souhaite à personne de vivre deux guerres mondiales, la guerre d'Algérie. C'est terrible, quoi. Mais je dis, mais ça, c'est incroyable. Ben non, mais tu vas pas embêter les gens avec ça. Voilà, ça, c'était les réponses qu'elle me donnait, quoi, régulièrement. Il fallait pas embêter les gens avec ça. Je dis, mais attends, mémé, t'as connu deux guerres mondiales, enfin... Oui, mais c'est rien. Ben quand même. T'as fait ça, 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 ça. Enfin, pour moi, non, c'est important de pas oublier ce moment, enfin, ces moments-là.
Après... Pour moi, les grands-parents, finalement, ce sera ma mère. C'est elle, la grand-mère. C'est elle qui l'est devenue. C'est devenu la place de la grand-mère dans toute la famille. Voilà. À cause des petits-enfants, donc, qui font revivre ça.
Les grands-parents, je pense qu'ils voient dans leurs petits-enfants un peu la suite de la famille et la suite de la vie. Et du coup, ça les réjouit. Je pense qu'on peut être vite en manque de grands-parents, parce que oui, il y a tout un imaginaire autour de la figure des grands-parents. Je sais pas, on s'imagine qu'on va chez eux en vacances, qu'ils répondent à tous nos caprices, l'image de la cheminée, de la soupe qu'a préparée la grand-mère. Enfin, je sais pas, c'est... Dans l'imaginaire, c'est quelque chose de super chaleureux et bienveillant. Et...
Puis en plus, moi, pour moi, elle était... était immortel, quoi.
C'était À travers eux de Charlène Biju, avec Éric Avert, Victor Blanchard, David Caron, Pierre Cassel, Anaïs Hamon, Clémentine Latelier, Raphaël Raffort, Jérôme Rousseau et Claire Terral. Merci à Camille Alperin, Hugo Philippon, ainsi qu'à l'équipe et aux intervenants du Créadoc. Je dédie ce documentaire à Monsieur Jacques Gadi. Créadoc Angoulême, le 28 mars 2017.
C'était À travers eux, un documentaire sonore de Charlène Biju.
Création radiophonique. Inouï.
Inouï. Une émission, de création et documentaire sonore
par les étudiants du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.
Et c'est surtout la fin des trois histoires sonores. Trois histoires mises en onde par Claire Messager et Pierre Cassel. Depuis les studios d'Inouï, on se dit à la prochaine et on vous laisse dormir sur vos deux oreilles.
Inouï.
Inouï.